Je vais vous parler aujourd'hui de la suite de mon message de la dernière fois. Alors, vous n'étiez pas tous là, donc je vais faire un résumé. Mon message de la dernière fois était sur le combat spirituel. J'ai parlé de quel combat. Vous avez posé la question, est-ce que les chrétiens ont un combat à faire, à mener dans leur vie? J'avais répondu oui, mais ce n'était pas un combat contre les hommes. Ce n'est pas un combat contre des personnes. Mais c'est un combat contre le diable. On va en parler quelques instants. Donc tu peux avancer. Alors, au début, ouais, je ne suis pas sûr qu'on arrive à voir. Mais on a. Ou alors, je vais faire beaucoup de choses bizarres aujourd'hui. Au début, dans la situation initiale, Dieu et les hommes sont en relation. Donc ça, c'était comme ça que c'était censé être. Le problème, c'est qu'à un moment, il y a un énergumène qui apparaît entre les deux, qui s'appelle Satan, qui s'appelle le diable, et qui essaye de séparer Dieu et les hommes. Il veut rompre cette relation. Alors, Satan, contrairement à Dieu, n'est pas tout puissant. Satan n'est pas présent partout, donc il n'est pas tout seul pour faire ça, il est aidé par des démons. Alors, Satan, du coup, il va essayer de rompre la relation des deux côtés. Donc, vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser l'homme. Il va montrer la liste des problèmes de l'homme. Alors, le petit Joël a... Le premier jour, à 0h, il était déjà égoïste. Ensuite, à 3 ans, quand sa petite sœur est née, il en avait déjà. À 5 ans, il a triché dans son premier DS de maths en regardant où était le carré sur l'image. Bon. Ça, c'est comme ça que procède Satan. Il a une liste et il nous accuse. Le problème, c'est que Dieu est juste. Dieu est juste, donc ses accusations, elles sont justes. Le problème, c'est que tout ce que dit Satan contre Dieu, c'est légitime. Il utilise, parce que Satan, il est moins fort que Dieu, mais il peut utiliser qui est Dieu, le fait que Dieu est juste. Alors, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a chanté plusieurs fois ce matin, c'était franchement qu'on a fait avec la chorale. Jésus est venu sur terre pour pardonner les péchés. Donc, il n'y a plus le problème de ce côté-là. Parce que Dieu peut nous pardonner si on accepte. Si on accepte que Dieu a déjà fait ça pour nous. Et d'un certain côté, du coup, Satan attaque l'homme. Alors, comment est-ce qu'il procède? La semaine dernière, Bami a parlé de la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, il a expliqué que Satan, il venait et il brouillait ce que disait Dieu. Il brouille l'information. Il ment sur qui est Dieu. Il ment sur qui on est. On peut lire dans la Bible, dans 2 Corinthiens 11, verset 14, Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Et dans 2 Corinthiens 4, 4, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mais tout ça ensemble? L'idée, c'est la Bible, Dieu nous illumine, Dieu veut nous éclairer et nous amener à lui. Comme un phare. Mais Satan, il a aimé sa propre lumière pour essayer de nous attirer à lui et de ternir l'image de Dieu. Donc là, on a deux phares. Ouais, ça se voit vraiment pas bien. Mais en gros, le phare du haut, c'est un rocher en plein milieu de la mer. D'ailleurs, le rocher est un peu. On sent qu'il va bientôt s'écrouler. Et ce phare, à son côté, c'est Satan qui essaye de nous attirer au large, de nous attirer loin de Dieu. Mais en nous faisant croire que si on arrive jusqu'à ce phare, on va trouver un endroit pour se reposer. Et l'autre phare qui est en bas, c'est un phare dans un port, et c'est vraiment un endroit où on va pouvoir se reposer, un endroit où on va pouvoir dormir, où on va pouvoir être à l'aise, où on va pouvoir manger aussi. Voilà, on parle de l'expression d'arriver à bon port, mais c'est vraiment l'idée avec Dieu. Donc, Satan, il nous ment, il nous dit mensonge sur qui est Dieu. Alors, comment est-ce qu'il procède? La dernière fois, je vous je vous avais parlé, les préados s'en souviennent aussi, de forteresses. Donc, d'idées fausses qu'il nous met dans notre tête, pour nous faire croire quelque chose de faux sur qui est Dieu. Par exemple, Dieu ne nous aime pas. Nous, je ne vaux pas la peine d'être aimé. Ce qui était là, c'était un peu aussi toutes les raisons pour lesquelles les préados ont refusé les cadeaux, hier, dans le sketch. Et dans le texte d'aujourd'hui, alors au lieu plutôt de parler de forteresse, on va parler de flèches, et de flèches enflammées. Alors avant de... Ouais, on verra tout à l'heure quand je le lirai, mais il est dit dans ce texte que Satan utilise des flèches enflammées contre nous. Et je voulais... Donc la notion de flèche, bon voilà, c'est une attaque, mais enflammée, ça donne aussi l'idée que c'est des dégâts qui durent sur le temps. C'est pas juste une attaque sur nos pensées d'un coup, mais c'est en général lié à plein d'idées qui vont persister, comme le doute, la dépression, le découragement, le désespoir. Voilà, je donnerai un exemple plus personnel plus tard. Voilà. Et la dernière fois, je vous avais fait une image, je vous avais amené un vase devant vous, un vase vide, qui est à gauche, et vous avez expliqué qu'un vase, profondément, c'est censé contenir des fleurs. Mais le problème, c'est que, notamment si le vase est chez moi, naturellement, il va se transformer en poubelle. Le problème, c'est que là, une fois que mon vase est dans cet état-là, ben, si je veux le ramener à l'état de fleur, il va falloir faire deux choses. Premièrement, le vider, mais ensuite le remplir, pour qu'il puisse contenir des fleurs. C'est la même idée dans nos pensées. Satan nous met des fausses idées en tête sur qui est Dieu, sur qui on est. Et nous, on doit apprendre à laisser partir ces idées, à les refuser, mais à la place, à mettre des bonnes idées de Dieu, à mettre ce que Dieu a dit, parce que ça ne sert à rien de juste refuser des pensées si on ne va pas dans la bonne direction après. Donc, c'est un peu le but aujourd'hui. Le but, c'est de vous expliquer quels sont les moyens plus pratiques que Dieu nous a donnés pour faire ça. Et donc, on va lire le texte de Éphésiens 6, voilà, verset 18 à la fin. 10 à la fin. Et je commence avec Dieu.
Au début.
Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Alors, dans le texte, il y a deux fois mention de « revêtez-vous de toutes les armes ». Donc c'est quelque chose d'important, et là, ce que je vais faire ce matin, c'est essentiellement prendre les 6 armes et les détailler. Donc on commence la ceinture. Alors, à quoi ça sert une ceinture ? Alors, le problème de la ceinture, d'ailleurs, voilà, ça commence à tomber, c'est que si on n'a pas de ceinture, bah, on se prend les pieds dans notre pantalon. Alors à l'époque, c'est un peu pareil. Alors dans la Bible, on ne va pas dire de la même façon, mais dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire plein d'histoires de se ceindre les reins. Et à chaque fois, il est question, dans ces versets-là, de partir en mission. Donc l'idée de mettre une ceinture, c'est d'être prêt. Ne pas être gêné. En fait, on mettait la ceinture, parce qu'à l'époque, on avait des grosses tuniques amples, je n'en ai pas pris ce matin, mais pour s'attacher et ensuite pouvoir courir. Alors, là, il est question de la ceinture de la vérité. Pourquoi ceinture de la vérité? Quel est le rapport? En Jean, en Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, Jésus est la vérité. Moi. Merci. Donc, Jésus est la vérité. Ça veut dire que c'est la vérité qui nous permet d'avancer. Le fait de connaître Jésus nous permet d'avancer. En effet, si on connaît la vérité, bah, on n'a pas peur d'aller de l'avant. On n'est pas gêné. On n'a pas des doutes sans cesse sur le fait de pouvoir avancer. Et donc ça c'est pour l'idée, mais plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vois deux aspects. Un premier aspect, c'est que si on connaît la vérité, on résiste aux mensonges de Satan. On ne croit pas les mensonges que Satan nous dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Jean 8, 32. La vérité, elle fait de nous des hommes libres, elle nous permet d'avancer, elle nous permet de sortir des pièges de l'ennemi. Et donc, ce qu'il nous faut faire, c'est uniquement avoir en tête tout ce qui est la vérité. Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Mais je vois aussi un deuxième aspect, c'est que du coup, voilà, c'est la vérité, savoir la vérité pour pouvoir avancer, mais en particulier, nous-mêmes être vrais, nous-mêmes être cohérents, ne pas essayer de faire bonne image, ne pas essayer de se cacher derrière une religiosité ou derrière une hypocrisie. Parce que ça, si on est hypocrite, si on fait semblant, ça nous freine, ça consomme de l'énergie pour rien. Donc acceptons aussi voilà, d'être vrai dans nos relations et de ne pas chercher à créer une fausse image de nous-mêmes. Une image meilleure, mais une image qui nous entrave parce qu'elle prend du temps à construire. Alors, la cuirasse. On nous recommande donc d'enfiler la cuirasse de la justice. Oui, oui. Bon. Là, voilà. Enfiler la cuirasse de la justice. Alors, donc cuirasse, une cuirasse ça sert à quoi? Ça sert à protéger le cœur, donc en particulier notre vie. La cuirasse ça sert à protéger notre vie. Alors, on peut se demander, vas-y, quelle justice? De quelle justice il est question? Et on peut lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse et de la foi et de l'amour. Donc finalement, cette cuirasse de la justice, c'est la cuirasse de la foi et de l'amour. Alors on peut se demander un peu quel est le rapport entre les deux. Je lis en Philippiens 3, 9. Être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Donc, cette cuirasse, c'est une cuirasse qui s'obtient par la foi. Par la foi du fait que Dieu est juste, premier point. Je l'ai déjà affirmé tout à l'heure. C'était dans un certain sens contre nous parce que Satan s'en servait pour nous accuser. Mais Dieu est juste, ça veut dire que s'il nous a pardonné, il nous a vraiment pardonné. Et cette cuirasse de la foi, elle est liée à l'amour. Alors, quel est le rapport? Vas-y. Galates 5, 6. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Donc, dans un certain sens, quand on a la foi, naturellement, on va aimer les autres. On va aimer les autres parce que Dieu nous aime le premier. Et on va transmettre cet amour. Et donc, d'un point de vue concret, au niveau de cette cuirasse, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aimer comme Dieu nous a aimés. Vous pouvez relire le passage, par exemple, dans 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour. Mais on voit dans ce passage que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Et c'est un standing, si je puis dire, assez haut de l'amour. Ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas de non-pardon, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de mauvaise pensée. Mais dans un certain sens, il nous faut aussi apprendre à pardonner aux autres. Alors, les chaussures, bon là je les ai déjà mises. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Je donne la définition de zèle parce que ça ne m'utilise pas tous les jours, tel que je l'ai trouvé dans un dictionnaire. Ardeur, empressement, dévouement mis au service d'une cause ou d'une personne ou à l'accomplissement d'une tâche. Donc, et là c'est le zèle pour annoncer l'évangile. Alors, les chaussures, ça sert à quoi? Les chaussures, ça sert à aller de l'avant. Ça sert à marcher une longue distance. Ça sert aussi à être prêt. Les militaires, quand ils ont des chaussures en pied en permanence, c'est pour, à tout moment, être sollicité et pouvoir partir. Ou les pompiers, aussi. Donc, le zèle, c'est pour annoncer l'évangile. Le zèle, c'est pour parler de qui est Dieu. Parler de qui est Dieu aux autres. Et l'évangile, quand il est question, Vas-y, continue. L'évangile dont il est question, c'est l'évangile de paix. Alors pourquoi paix? Pourquoi évangile de paix? Parce que Dieu, dans la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu a fait la paix avec nous. On l'a chanté ce matin. Dieu a fait la paix avec nous. Et on a la paix et on est motivé pour annoncer cela aux autres. Pour que les autres aussi puissent recevoir cette paix. Dans les années 35, il est dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La suite du verset que je ne cite pas, c'est « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Dans certains sens, il faut vouloir la paix de Dieu. Il faut vouloir la paix avec Dieu. Et on ne peut pas communiquer quelque chose que l'on n'a pas reçu non plus. Donc aussi, ça a un peu arrivé, moi ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir des moments où j'étais énervé contre Dieu. Mais il faut aussi faire la paix avec Dieu pour pouvoir avancer. Pour pouvoir être prêt à avancer. Vas-y. Le bouclier. D'abord là, je n'ai pas de vrai bouclier. Quand je le bois. Donc prenez en plus cette constance, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Alors, le mot qui est utilisé ici pour bouclier, c'est la seule fois dans la Bible où il est utilisé, en grec, mais c'est un mot qui vient de porte. Donc il s'agit d'un gros bouclier rectangulaire, et pas du petit bouclier rond derrière lequel on se protège. Voilà. Donc, c'est typiquement le bouclier, ça ne vaut pas très bien, on voit un peu mieux là. C'est typiquement le bouclier, d'Astérix Obélix, ou le bouclier des Romains. Alors, le bouclier de la foi, j'ai déjà parlé de la foi tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir, mais c'est intéressant de voir que c'était la cuirasse de la foi et de l'amour, et le bouclier de la foi. Parce que les deux sont liés à une protection qui est basée sur l'amour de Dieu. Mais il y a une dimension en plus dans le bouclier, on ne voit pas forcément les liens comme ça, mais qu'on voit bien dans la petite BD Astérix, c'est que le bouclier ne protège pas que moi. Le bouclier, il protège aussi les autres. Et du coup, je nous encourage vraiment aussi à prier pour les autres, passer du temps avec les autres et trouver des partenaires de combat de prière. Merci. Alors le casque, donc, là, je ne vais pas le garder tout le temps. Voilà, un peu. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Le casque, quel est son intérêt? Le casque, il protège la tête. Et la tête, c'est là-dedans qu'il y a le cerveau, mais c'est en particulier là qu'il y a les pensées. Et je vous ai dit au tout début que les pensées, c'est le lieu du combat. Les pensées, c'est le lieu du combat contre Satan. Et donc le casque, là, c'est le casque du salut. Alors on peut se demander un peu quel est le rapport, pourquoi est-ce que le salut protégerait nos pensées? Et là, dans le verset 1 Thessaloniciens 5, verset 8, on voit que ce casque du salut est appelé le casque de l'espérance du salut. Donc dans un certain sens, ouais. C'est pas le casque du salut, mais c'est vraiment le casque de l'espérance du salut, parce que c'est l'espérance qui peut protéger nos pensées. J'aime beaucoup ce passage de Romains 8, 24, 25 qui dit « Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. » Et ça. Attends, excuse-moi, merci. Donc, l'espérance nous permet de protéger nos pensées. Et là-dessus, je veux juste vous partager une petite histoire personnelle. Certains la connaissent, pas forcément dans tous les détails, mais je vais la faire rapidement. Entre 2010 et 2012, je suis arrivé à Paris. Et c'était les deux années les plus dures de ma vie. Alors, c'est pas forcément lié à Paris, quoique. Mais. Je suis arrivé dans une école à Paris, et alors que jusqu'à présent, dans toute ma vie, j'avais toujours été première classe, je suis arrivé dernière classe. Je suis arrivé dans cette école. Et pour moi, c'était vraiment un choc, parce qu'en plus, je bossais plus, même plus, en classe préparatoire, d'où je venais. Mais c'était aussi un choc dans qui j'étais. Parce que jusqu'à présent, j'avais toujours été connu comme le premier classe. Voilà. Et quand je voyais des amis de mes années précédentes, il me disait, bon, de toute façon, ça doit bien se passer, parce que tu as toujours été premier, ça ne voit pas pourquoi ça se passerait mal. Et du coup, c'est d'autant plus dur, et là, niveau hypocrisie, j'étais pas mal, parce que fallait cacher ça. Et c'était vraiment dur. Et en plus, j'avais toujours eu une mauvaise image de moi-même. Et jusqu'à présent, cette image de moi-même, elle s'était cachée parce que j'arrivais à me cacher derrière mes notes. Mais là, le fait qu'on m'enlève le seul truc qui me restait, mes notes, bah, elle a complètement explosé. Et je suis vraiment tombé en dépression pendant 2 ans. Où tous les soirs je pleurais, Je me suis fait appeler, ma maman s'en souvient, je me suis fait appeler Mara, c'est-à-dire amère. J'ai envisagé le suicide à un moment. Et ça, c'est vraiment tous les symptômes, sur un côté, d'une absence de casque. Dans le sens où mes yeux étaient fixés sur moi-même, j'avais une image qui était fausse sur qui je suis, j'avais une image qui était fausse sur qui était Dieu. Je rentrais dans une dépression et j'avais des pensées de mort. Et vraiment, qu'est-ce qui m'a fait sortir de là? Alors il y avait plein de choses, et aujourd'hui je remercie Dieu pour ces 2 ans. Mais surtout, alors il y a un verset qui m'a beaucoup parlé, dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il y a cette notion d'espérance. Et il y a une autre notion qui est très intéressante pour moi, parce que je fais des études de maths, c'est démonstration. Et pour moi, démonstration, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose d'irrévocable, en fait, en mathématiques. Et donc, de voir que cette démonstration, la démonstration, c'est une chose en quoi j'espère. Ça m'a vraiment permis de m'accrocher. J'ai aussi cité tout à l'heure le verset de Romains 8, 24, qui dit ce qu'on espère, ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Et je me suis accroché à cette notion d'espérance. Et vraiment, je veux nous encourager à avoir les yeux fixés sur Jésus et à connaître aussi les vérités bibliques. Alors, l'épée. Alors, il y a l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, notons que l'épée, c'est la seule arme offensive du lot. Tout le reste, c'est des armes défensives. Alors, reviens en arrière. Alors, l'épée, c'est la seule arme défensive. Et c'est l'épée. C'est l'épée. Pardon ?
Offensive.
Oui, pardon. Offensive, merci. Et c'est la seule arme. C'est la seule arme offensive, je vais vous dire. Elle est dite, c'est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu. Le mot qui est utilisé ici pour parole, ce n'est pas le mot parole écrite. C'est le mot parole prononcée. C'est le mot parole dite. Donc il n'est pas question d'avoir une Bible. Avoir une Bible chez soi, ça ne garantit rien. Avoir une Bible, ce n'est pas une protection. La Bible, c'est un livre sec et stérile en soi. Je vais me corriger après. En soi, la Bible n'est rien parce que, voilà, par exemple, on peut prendre Luc Ferry, un philosophe contemporain, qui a dit que si jamais il partait sur une île déserte, il voulait amener avec lui l'évangile de Jean. Voilà. Alors qu'il est athée. Mais la Bible est un beau livre, pour certains. Et la Bible, pour nous, ce n'est pas ça. Mais c'est le fait de connaître la Bible avec l'Esprit de Dieu qui le rend vivant pour nous. Par exemple, aussi, dans la Tentation de Jésus, que j'avais lu la dernière fois, on voit que la Bible, que Satan et Dieu utilisent la Bible comme argument. Donc comme quoi, c'est bien les arguments décisifs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Satan utilise la Bible, mais comme il ne l'utilise pas avec l'Esprit de Dieu, il lui fait dire n'importe quoi. Donc ce n'est pas connaître la Bible, ce n'est pas connaître intellectuellement la Bible, c'est connaître la Bible par l'intermédiaire de l'Esprit qui est important. Et c'est pareil pour cette épée. Je veux dire, je peux avoir la Bible à mon fourreau, je peux avoir la parole de Dieu à mon fourreau, mais si je ne prends pas la décision de l'utiliser avec l'esprit, ben, ça ne servira à rien. À un moment, il faut que je la sorte pour l'utiliser. Et donc c'est vraiment ça aussi, d'un certain côté. Connaître des vérités bibliques, oui, et même pour les enfants, pour vos enfants ou pour les préados, c'est pas important de connaître les histoires de la Bible. Ce qui est important, c'est de comprendre les histoires de la Bible. C'est-à-dire comprendre ce que Dieu veut se révéler à travers ça, chacun de ces moments-là. Et moi, par exemple, un verset qui m'a fait énormément de bien dans ces 2 ans de déprime, c'est le verset du psaume 139, verset 14. « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Pour moi, qui avait une très mauvaise image de moi, ça m'a vraiment porté. Mais d'un certain côté, ça m'a pris beaucoup de temps, à pas seulement le lire, mais à vraiment le comprendre. Alors, la dernière question que je pose, c'est est-ce que c'est un combat qui, d'un certain côté, perdu d'avance, parce qu'on a un archer, et nous on a une épée. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on court Satan, parce que sinon on ne peut pas l'atteindre, et lui il peut rester à distance perpétuellement. Et je pense qu'effectivement, il y a une notion où on n'a pas à être juste sur la défensive. Ce que Jésus nous a laissé dans les actes, c'est aussi de pouvoir avancer, de pouvoir arracher des âmes à l'enfer, pouvoir faire découvrir la vérité de l'Évangile à plein de monde. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'utiliser ces armes, mais je pense qu'il faut une autre arme, peut-être une arme à longue distance. Et là, je pense que le verset 18 en parle un peu, le verset 18 qui parle de la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Et la prière, pour moi, je pense que c'est un missile guidé intercontinental. Parce qu'on peut atteindre n'importe où avec la prière. On peut se déplacer. On peut se déplacer et aller sur place pour prier à différents endroits. Je l'ai fait, vous pouvez venir me poser des questions. Mais profondément, en priant ici, je peux avoir une influence, pas moi-même, mais par l'intermédiaire de Dieu, n'importe où. Et Dieu nous a laissé cette prière, et il ne faut pas qu'on soit fataliste avec. Il ne faut pas juste qu'on dise, si Dieu veut que la volonté de Dieu se fasse dans un certain sens. Alors oui, la volonté de Dieu se fait, mais je veux vraiment nous encourager à prier plus et pas juste à se dire, non mais de toute façon, ça ne sert à rien de prier, parce que Dieu veut qu'on prie. Bon, on a vu beaucoup de choses, je vais faire un temps de bilan. Alors ça, c'est un tableau qui résume un peu tout, et j'en ai imprimé une dizaine d'exemplaires si vous voulez venir en prendre à la fin. Donc, on a vu les six armes. Alors la ceinture de la vérité, bon, la fonction de la ceinture, c'est ne pas être gêné. D'un point de vue spirituel, on a dit que la vérité, c'était Jésus, donc c'est le fait d'avancer en connaissant ce qu'a dit Jésus et ce qu'a fait Jésus qui nous permet de ne pas être gêné. Et concrètement, nous engager, je m'engage moi-même, à être vrai et à être cohérent dans ce qu'on fait. La cuirasse, on a dit qu'elle protégeait le cœur, c'est-à-dire la vie, les sentiments, et que c'était la cuirasse, que c'était la cuirasse qui provient de la foi agissant par l'amour. Donc je vous engage aussi à réussir à aimer, notamment à pardonner les autres, à ne pas avoir d'amertume. Les chaussures buzzelles, le but c'est de se déplacer, et ces chaussures symbolisaient aussi notre paix faite avec Dieu. Donc, il faut avoir être dans le calme et dans la confiance pour manifester cette paix aussi, pour que ça puisse être à la personne. Le bouclier de la foi, il protège moi et les voisins. C'est la foi agissante par l'amour. Et donc là, je vais m'engager en plus à aussi trouver des partenaires de prière et de combat. Le casque du salut, il protège la tête, c'est-à-dire mes pensées. Il symbolise l'espérance du salut. Et donc, je vous invite vraiment à refuser les pensées fausses et avoir le regard fixé sur Jésus. L'épée de l'esprit, enfin, nous appelle à nous permet de contrer les attaques. C'est la parole vivante, et non pas la parole écrite. C'est l'esprit qui vivifie, qui utilise cette parole. Et nous invite à se nourrir, au sens primaire de vraiment les ingurgiter en nous, des versets bibliques. Et alors là, je rajoute dans ce tableau une dernière colonne, que j'ai appelée Ancien Testament. Alors, en fait, c'est juste pour faire une remarque que, à peu près toutes ces armes, il y a un verset dans l'Ancien Testament qui en parle, de cette arme, et c'est un attribut de Dieu, c'est un attribut de Jésus. Et donc, dans un certain sens, ce que fait Paul, en nous parlant de ce passage, c'est de nous inviter à nous habiller au même tailleur que Jésus. Jésus, il a un certain équipement, on nous invite à prendre le même équipement que l'équipement de Jésus. Alors, pour conclure, je vais lire cette parabole qui est dans Luc 11, c'est ça ? C'est écrit en bas. Luc 12. Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître partout pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Et j'ai un peu de mots sur ce premier verset, qui n'est pas traduit comme ça en toutes les versions, mais là, la Sommeur traduit « Restez en tenue de travail ». Je le trouve vraiment très intéressant. Je vais plus. Seigneur, je te bénis pour qui tu es, je te bénis pour ton amour envers nous. Je te bénis parce que, oui, tu as fait le premier pas, tu refuses les attaques du diable et tu nous permets aussi de nous défendre contre les attaques du diable en nous équipant de toutes ces armes, en nous donnant toutes ces armes qui appartiennent à ton fils, mais que tu nous as aussi confié. Et Seigneur, je veux vraiment te prier de nous aider à aller de l'avant. Voilà, que tout ce que j'ai dit, c'était une liste de choses dans un certain sens. Mais vraiment, chacun puisse être touché dans un domaine où il a avancé. Seigneur, on a besoin de toutes les armes dans notre vie, pas pour faire des choses, mais pour être avec toi et pour avancer avec toi. Seigneur, permets-nous vraiment de te connaître chaque jour davantage et de t'aimer chaque jour davantage. Amen.